Suite de votre série radiophonique Les plages de la liberté avec le musée national de la marine de Toulon où se tient en ce moment une très belle expo Opération Dragoon, le débarquement de Provence en photographie. Pour ce troisième rendez-vous des plages de la liberté, nous sommes avec Elsa Lebillon, administratrice du musée national de la marine de Toulon. Et avec Elsa, dans cet épisode, nous allons évoquer un aspect peu connu mais crucial pour la réussite du débarquement de Provence il y a 80 ans, la reconnaissance aérienne, Elsa.
Voilà, ça c'est un aspect de la préparation du débarquement de Provence dont nous souhaitions absolument parler, puisque au cours de nos recherches, on a découvert l'existence d'un fonds de photographie aérienne situé à Aix-en-Provence, donc au centre Camille Julian à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui, nous l'ignorions, mais possède un fonds de milliers de photographies de reconnaissance aérienne de la Seconde Guerre mondiale, dont des centaines de missions qui ont été effectuées dans le but de la préparation de ce débarquement de Provence. Donc nous avons vraiment été impressionnés par ce fonds et par la reconnaissance aérienne en général, qui est finalement un aspect de la préparation du débarquement qui est peu connu, peu étudié. Il y a très peu d'ouvrages, encore moins en français, sur le sujet. Alors que oui, la reconnaissance, c'est indispensable dans la préparation d'une événement, d'une opération d'une telle ampleur. C'est le renseignement, c'est véritablement la base de la connaissance pour pouvoir mettre en place un débarquement. Et cette reconnaissance, comme vous l'avez dit, elle passe par le ciel. Les avions décollent des bases qui sont positionnées notamment en Afrique du Nord suite à la libération d'Afrique du Nord en 1942. Et ils vont traverser la Méditerranée et parcourir ces distances seuls, puisque les pilotes d'avions de reconnaissance ne sont pas armés, le but c'est qu'ils soient discrets, ils sont dans des avions qui sont reconditionnés et en plein territoire ennemi, leur but c'est de prendre des photos. C'est de prendre des photos en restant à vitesse et à altitude constante pour que les photos soient de la meilleure qualité possible, puisque la mission véritablement ne sera accomplie et réussie que s'ils reviennent à la base avec leurs précieux clichés exploitables ensuite par les interprètes et les militaires.
Et là ça devient un puzzle géant.
Exactement, c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition par un procédé assez visuel où on a justement pris quelques traits de quelques portions de côte et on a reconstitué avec ces photographies en faisant un genre de puzzle, comme vous l'avez dit, ça fait un peu des mosaïques de photos qui mises bout à bout représentent ce trait de côte d'une façon assez précise. C'est vraiment assez impressionnant la qualité finalement photographique qu'on peut obtenir depuis ces avions et on peut à partir de là étudier la côte en détail et interpréter, essayer un petit peu de traduire ces images en renseignement militaire.
Alors justement, avant de parler des interprètes, on va parler d'un des pilotes célèbres qui est venu photographier les côtes varoises, les côtes provençales, Antoine de Saint-Exupéry.
Mais oui, les 80 ans du débarquement de Provence marquent aussi les 80 ans de sa disparition, puisque Antoine de Saint-Exupéry, qu'on connaît très bien comme auteur de romans, est aussi un pilote, avant tout même un pilote, et il a participé à la reconnaissance aérienne du débarquement de Provence au sein de l'unité 233 qu'il a absolument tenu à réintégrer. Il était parti aux États-Unis suite à la capitulation en 1940 et il s'est battu véritablement pour revenir, pour refaire des photographies aériennes. Il a été accepté malgré finalement son âge déjà assez avancé et sa santé un peu déclinante, et il a effectué effectivement plusieurs missions pour le débarquement de Provence et c'est au cours d'une de ces missions qu'il a disparu. On l'a découvert plus tard au large de Marseille.
Saint-Exupéry avec une fondation.
Oui, alors justement, on a vraiment eu à cœur de faire un petit encart sur Saint-Exupéry à travers à la fois des photographies, ces fameuses photographies qui avaient été prises pour le magazine américain Life par John Phillips, que nous avons obtenues auprès du musée Air France, et même d'un petit dessin qui est assez émouvant, qui représente des gribouillis dessinés et écrits par Saint-Exupéry au dos justement d'un cliché de reconnaissance aérienne. On a obtenu ce petit dessin, en tout cas sa reproduction, grâce au soutien de la succession Saint-Exupéry d'Aguet, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup pour leur soutien.
C'est une chose de prendre des photos, de faire partie de cette foule de pilotes qui sont venus comme ça en repérage prendre des photos. Après ces photos, il faut les trier, il faut les décoder, il faut reconnaître les lieux. On va parler des interprètes. Il y a eu des interprètes pour tous ces clichés.
Et oui, et là, c'est vraiment un des engrenages dans lesquels, une fois qu'on a mis le doigt, on découvre tout un monde qui est vraiment, dont on n'avait jamais entendu parler. On connaît par exemple ceux qui ont les code breakers avec ce fameux Bletchley Park et ceux qui décodaient les messages des Allemands. Mais on connaît moins cette autre unité qui était localisée d'abord en Angleterre, puis ensuite en Afrique du Nord également, qui devait interpréter, traduire finalement ces photographies, puisque les militaires, eux, veulent des renseignements. Mais entre la photo et le renseignement, il y a un monde. Il faut interpréter, il faut comprendre ce qu'on regarde. Et il y avait toute une unité de personnes qui avaient à charge d'interpréter ces photographies. Et c'était capital d'avoir les bons renseignements. On observe beaucoup de femmes, notamment dans ces unités, mais aussi des profils tout à fait variés, des mathématiciens, des archéologues, des personnes qui étaient capables d'interpréter les données et qui pouvaient véritablement mettre à jour telle ou telle défense, telle ou telle évolution du paysage, l'endroit à bombarder. Est-ce que la mission de bombardement a bien atteint sa cible? Est-ce qu'elle a été détruite? Est-ce que les Allemands sont en train de la reconstruire, etc. Donc c'est vraiment un aspect tout à fait fascinant de la préparation du débarquement de Provence.
Et parmi ces interprètes de clichés, est-ce qu'il y avait des locaux, des Varois, des Provençaux qui faisaient partie des interprètes pour dire tiens, je reconnais ce village, je reconnais cette côte, je reconnais ce morceau de campagne?
Alors c'est possible qu'on ait fait appel à des locaux pour interpréter ces clichés. Après, il est vrai que l'apport de la population varoise, elle va se retrouver plutôt dans la résistance, où ils ont fourni énormément de renseignements, il est vrai, qui ont été exploités et très utiles aux Américains, notamment dans le choix des plages. C'est beaucoup grâce effectivement à la population qu'on a pu estimer la meilleure portion sur laquelle il fallait débarquer, et ensuite le renseignement aussi, voilà, qui a été fourni par ces locaux tout au long de la préparation du débarquement, voilà, qui portait peut-être moins sur les clichés aériens, mais tout à fait effectivement sur le côté topographie locale.
Alors pourquoi les plages varoises ont-elles été choisies pour le débarquement de Provence ?
Oui, alors ça a bien évidemment fait l'objet d'une étude et d'un débat. Plusieurs endroits possibles pour le débarquement sur la côte méditerranéenne française ont été étudiés. Il fallait absolument trouver des endroits avec des plages assez plates, sans trop de relief pour faciliter le débarquement, avec des eaux assez profondes. Le but était aussi de trouver des endroits qui n'étaient pas trop minés, ni avec des batteries importantes de défense à proximité. C'était le cas notamment de Toulon, hein, la célèbre Big Willy, cette batterie qui était sur la presqu'île de Saint-Mandrier, avait un rayon d'action de 80 km. Donc par exemple, il était hors de question de débarquer dans ce rayon-là. Mais il fallait quand même essayer de rester à proximité de Toulon et Marseille, qui était vraiment un des objectifs principaux de ce débarquement de Provence.
Même la ville de Sète avait été envisagée, c'est ça ?
Oui, la ville de Sète avait été envisagée, mais finalement, les infrastructures portuaires à Sète n'étaient pas exploitables, d'où vraiment la nécessité de récupérer des villes comme Toulon et Marseille pour pouvoir débarquer dans les meilleures conditions possibles les hommes et le matériel qui seraient nécessaires à la libération du territoire français et de l'Europe.
Elsa Le Huillon, administratrice du Musée national de la marine de Toulon. Et dans notre prochain épisode, nous verrons que cette reconnaissance aérienne va permettre aux Alliés, durant la préparation de ce débarquement de Provence, eh bien, de découvrir le Sud-Wall, le mur de la Méditerranée. Mur construit par l'occupant nazi.